émission du Père Marie-Dominique Philippe sur Métaphysique aujourd'hui, le 5 juillet l'an 2000 à Saint-Jean-d'Or.
Mon Père, il y a d'abord plusieurs questions d'ordre critique sur ce que c'est que... Qu'est-ce que vous appelez exactement la recherche d'un premier ? Qu'est-ce que ça apporte à notre intelligence que de découvrir un premier pour regarder la réalité ? Est-ce qu'il y a une différence entre le premier en philosophie et dans les sciences, entre la loi et un principe ?
Vous voyez, il y a deux types d'abstraction. C'est-à-dire, l'abstraction, le passage du singulier à l'universel. Un gosse, il dit « papa » à tous les hommes. Tous les hommes sont papa. Ça, c'est le gosse. Il arrive après à distinguer l'homme. Qui n'est pas papa. Comment se fait-il qu'on passe du singulier ? Ceci est ma montre, ceci est. Et puis on passe à l'universel, une table. On passe à papa, singulier, à homme. On fait ça instinctivement. Quand vous apprenez la langue, vous passez de toutes les significations singulières à une signification universelle. C'est très curieux, ça. Vous passez de ce que vous touchez à ce que vous ne touchez plus matériellement. Mais intellectuellement. En premier passage, deuxième passage du singulier, ceci est un principe. Le premier dans l'ordre de la détermination. On appelle substance. C'est le premier dans l'ordre de la détermination. Vous passez du singulier à l'universel. Saint Thomas distingue très nettement. Aristote, il le fait, mais n'emploie pas le mot. Je ne crois pas, du moins. Il y a l'abstraction universelle et l'abstraction formelle. Et vous passez de papa à homme. Vous passez de cette rose à la rose, la fleur. Et vous passez de mots singuliers, ceci est un jugement propre, particulier, singulier, que vous touchez à ce qui est premier dans les déterminations de la cause formelle. Ce passage-là, on l'appelle l'induction en philosophie, depuis Aristote. C'est Aristote. Platon l'avait déjà découvert, l'induction, mais pas tout à fait de la même façon. Aristote l'a découvert. Je passe. Il y a de la fumée. Je dis, il doit y avoir du feu. La fumée provient du feu. La cause de la fumée, c'est le feu. Qu'est-ce que je vois en premier lieu ? C'est la fumée. Et j'induis le feu. qu'est-ce que je sens? C'est que je dors et je fais de la philosophie. J'induis l'âme, la source. Vous voyez, le chercheur de source, le sourcier. On passe de réalité qu'on touche, qu'on voit, à quelque chose qui est premier. Un principe, c'est ce qui est premier. C'est ça un principe. C'est ce qui est premier. Ce qui est premier dans un ordre donné. Vous saisissez l'ordre et à partir de là, vous posez le principe. C'est l'intelligence qui pose le principe. Vous ne le voyez pas, vous ne touchez pas le principe. Les principes, c'est quelque chose que mon intelligence atteint. Mais mon intelligence seule atteint. Vous n'avez pas touché le principe. Vous seriez électrocuté. Vous savez bien. Je me souviens comme ça d'une triste histoire. C'était une maison qui était hantée. C'est en Bretagne, évidemment. Voilà. Une maison hantée. Et alors, des amis savaient que leur ami avait peur de cette maison hantée. Ils avaient décidé quand même d'aller en vacances là. Mais ils avaient peur de la maison hantée. Alors, ses amis ont voulu un peu blaguer. Alors, la nuit, ils ont commencé par faire des... Et ils étaient couchés. Plutôt sa chambre, au-dessus. Alors, puis alors, tout d'un coup... Et un autre qui est apparu, enveloppé d'un grand linge, tout blanc. Puis, trop intense. Et il avait un revolver. Et alors, les amis sont précipités, ils ont tiré par surtout. Il avait quand même plus. Il a tiré. Heureusement qu'il avait raté le coup. Vous voyez, l'intelligence interroge. Qu'est-ce que c'est qu'une maison hantée? On n'entend des pas. Et s'il y a des pas, il y a quelqu'un derrière, quoi. D'habitude, on peut entendre des pas, puis on n'entend rien d'autre, on ne voit rien. On passe des pas à une figure, à quelqu'un. L'intelligence fait ça constamment. On passe de données qu'on voit à ce qui est premier, d'où viennent ces choses. La cause, le principe, la source. Et c'est l'intelligence qui fait ça, grâce à l'interrogation, quel est le premier. J'expérimente dans ma vie toutes mes expériences. Je mange, je dors, je pense, puis tout ce que je fais dans ma journée. Et tout ça provient de moi. Il y a un seul qui fait ça. Alors, je vois toutes ces réalités et vois qu'elles ne s'expliquent pas par elles-mêmes. Comment le sommeil explique que je pense? Comment je pense explique mon sommeil? Il n'y a aucun lien de réalité. J'interroge Qu'est-ce qui est à l'origine de ces réalités? Qu'est-ce qui est à l'origine? Qu'est-ce qui est premier? Ces réalités que j'expérimente sont secondes. Elles proviennent d'un premier. Et je suis obligé de poser un premier parce que c'est bien moi. Et l'une ne cause pas l'autre. Penser ne fait pas dormir. Dormir ne fait pas penser. Il n'y a pas un lien de causalité entre dormir et penser. Il n'y a pas de lien nécessaire. Quelquefois, je pense et je n'arrive pas à dormir. Quelquefois, je dors et je n'arrive pas à penser. Il n'y a aucun lien. Il faut donc nécessairement qu'il y ait un troisième qui soit la source de dormir et de penser. Un troisième qui est autre que cela, que je pose. Vous voyez, j'interroge. D'où viennent ces deux? Il n'y a pas de lien. Il faut donc un troisième qui soit source. Et je découvre par là la source, le premier. Je fais un bond pour découvrir cette source. Et il faut une intelligence qui découvre au-delà de ce que je touche, ce qui est la source. Et une fois que j'ai découvert, je m'aperçois et je peux très bien faire le chemin inverse. Est-ce qu'en posant ça, je vais poser le sommeil? Je pose comme ça mon âme, qui est cause de toutes les opérations vitales dans leur diversité. Mon âme humaine, c'est elle qui me fait dormir. Mon âme humaine, c'est elle qui me fait penser. Mon âme humaine, c'est elle qui a soif quand elle est unie au corps. Comme lorsqu'elle veut dormir, elle est unie au corps. Mon âme ne dort jamais, mais mon corps dort. Mon âme pense sans mon corps, tandis que je mange mon âme avec mon corps et j'assimile ce qui est la nourriture. Donc, il y a quelque chose de très intéressant. C'est ce passage de ce que je vois, de ce que je touche, ce que j'entends, ce qui est directement donné à mes sens extérieurs. Et puis, le premier, pour passer de cette multiplicité donnée par les sens à quelque chose qui est source, qui est à l'origine, qui est principe, qui est un. C'est l'intelligence qui fait ça. Lorsque l'intelligence interroge, elle voit la diversité qui ne s'explique pas. Il faut donc quelque chose qui explique cette diversité, cette unité. Il y a diversité et unité. Hein. Il faut bien choisir les deux. Hein. Parce que n'importe quoi ne me conduit pas à n'importe quoi. Il faut conduire deux réalités qui sont semblables et qui sont diverses et qui ne s'expliquent pas l'une par l'autre. Elles ne peuvent s'expliquer que par un troisième. Et je ne découvre pas tout de suite, je fais des hypothèses. L'interrogation, elle est source de recherche. Si je n'interroge pas, je ne cherche pas. L'interrogation, c'est la vie de mon intelligence. L'intelligence qui interroge. Vous voyez, le gosse, je me souviens de cette petite expérience. J'étais à la gare du Creusot, tout à fait les premiers TGV. Les premiers TGV. Il y avait une mère avec son gosse de 3 ans, 4 ans, mère était là, elle lui donnait la main. Maman, qu'est-ce que c'est ça? C'était TGV qui arrivait. Alors la mère, lui, c'est un TGV. Hein, vous voyez, comme explication pour le gosse. Son intelligence avait soif de connaître. Et la mère a éteint la petite bougie qui allumait avec un gros ité noir. TGV. Comme si TGV expliquait le bolide qui arrivait. Elle aurait pu dire, c'est locomotive. Mais qu'est-ce que c'est qu'une locomotive ? C'est une machine particulière qui a cette particulier de traîner un train derrière. Et puis ainsi de suite. Vous voyez, on passe du singulier à un principe. Je passe de diverses expériences, dormir et philosopher. Je dors. Je philosophe. Dormir n'explique pas philosopher, et philosopher n'explique pas dormir. C'est divers, et pourtant c'est moi. Ah, d'où ça vient? Est-ce que c'est mon corps qui explique que je pense? Non. Est-ce que c'est mon corps qui explique que je dors? Oui. Alors comment ça se fait? Comme moi, je dors. Je suis capable de dormir. J'espère que ce soir je dormirai. C'est une espérance. J'ai une capacité de dormir. Je suis très fatigué. J'ai fait de la philosophie toute la journée. C'est très fatigant. Mais dormir, ça s'explique par mon corps fatigué, qui a besoin de se détendre, qui a besoin de se reposer. J'ai philosophé toute la journée. Est-ce qu'il y a un lien? Non, aucun. Donc, il y a d'autres sources. J'interroge d'où ça vient. Qu'est-ce qui fait que je peux penser? Et quand je dis, c'est l'âme. Ah, donc, l'âme est source de cette puissance particulière qui est capable de penser. Je peux lutter contre mon sommeil et penser. Je peux me laisser aller par mon sommeil et ne plus penser. Mon corps a la force de quelquefois de lutter tellement qu'il arrivait de vainqueur de mon attention. Je veux être attentif. Je veux suivre ce cours de philosophie. Non, je suis trop fatigué. Je dors. Et le professeur de philosophie voit que son cours de philosophie fait dormir celui qui écoute. Et chez le voisin à côté, ça ne le fait pas dormir, ça l'éveille. Ah, c'est curieux. Donc faire un cours de philosophie a la capacité de dormir. Ça ne se vend pas chez le médecin, chez le pharmacien. Quand vous dites, monsieur, donnez-moi quelque chose pour dormir. Un cours de philosophie. On ferait fortune. C'est un cours de philosophie, ils sont déchets, ça ferait dormir. Quelquefois, le cours de philosophie fait dormir, ça vous détend. Alors, voyez l'induction, induire, passer de l'expérience à la découverte du principe. Quelle différence y a-t-il entre la loi et le principe? Je crois que c'est la seconde définition. La loi, c'est une relation de nécessité entre l'antécédent et le conséquent. Je pose tout ce qu'il faut pour allumer un feu. Vous allez très bien comprendre. Le feu est allumé, d'où la fumée. Je sais que le feu produit de la fumée. Je allume le feu, parce que vous ne pouvez pas faire de la fumée sans feu. La loi montre le rapport qui existe entre un antécédent et un conséquent. Vous découvrez ça par votre expérience. Chaque fois que vous posez cet antécédent, il y a le conséquent. Scout devant l'Éternel m'avait raconté cette histoire. Un jour, il était avec ses routiers. Ils étaient en retard. Alors, il avait désigné à chacun à faire quelque chose où il avait toujours le prix. Et l'ami que je connaissais et que la rigodie connaissait, était toujours premier dans les concours de feu. Alors il dit, eh mon brave Pierre, ce soir, un feu numéro un, tu es toujours premier dans les concours de feu, donc ce soir, un numéro un feu un. Puis, il s'en va auprès à chacun, donner son métier. Au bout d'une demi-heure, il vient auprès de mon Pierre. Qu'est-ce qu'il voit ? Il voit Pierre avec deux silex. Il voit et le feu. Et tu m'as dit qu'il fallait un feu numéro un. Je le cherche à la source. Mais de silex. L'un sur l'autre, une éclair. Bon, ça doit brûler. Non, l'éclair passe. Je n'arrive pas. Le feu numéro un, il résonne les silex. Je dis, mais c'est pas ça que je demande. Je demande un feu. Tu vois, numéro un, c'est pas de chercher la source, c'est qu'il brûle fort. Tu m'as dit chercher la source, tu m'as dit numéro un, pour moi un feu nouveau, il sort des silex. J'ai trouvé ça merveilleux. Vous voyez, c'est l'entente du philosophe et du savant. Le savant veut des choses pratiques, efficaces. Le philosophe cherche la source. Voyez, le philosophe cherche la source, le principe. Le principe n'est pas une relation, c'est un jaillissement. C'est une source. Ça tient tout seul. Ça jaillit. Tandis que la loi du savant, c'est toujours le lien entre l'antécédent et le conséquent. Ce qu'il faut mettre pour qu'il puisse y avoir du feu. Un feu numéro un, c'est un feu qui brûle et rapide. Donc, ce qu'il faut pour ça, qu'est-ce qu'il faut ? Une allumette, du papier, pas d'humidité, des brindilles de feu, et après, petit à petit, on brûlera la grosse touche, le gros socle. Un feu numéro un, pour le philosophe, c'est chercher à la source. Pour le savant, c'est l'efficacité.
Mon père, après, il y a une question sur ce que vous avez dit hier soir, sur les rapports entre le ceci est et l'amitié. Alors, vous avez dit, on peut regarder le je t'aime que s'il y a l'exister, le jugement d'existence. Pourtant, on peut aimer quelqu'un même s'il est absent. Quelle différence entre l'être et la présence ?
Ah oui, oui. Absent, pour l'amour, c'est le désir. Je désire qu'il soit là. Il est absent. Donc, on anticipe l'existence. Mais il a été. Il est. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il est absent. Si Pierre était mort, il ne serait pas absent. Si Pierre n'avait jamais vécu, il ne serait pas absent. Il faut qu'il ait vécu pour être absent. Donc, le jugement d'existence est là. Autrement, il n'y aurait pas de Pierre. L'amour vient d'un bien qui m'attire et ce bien implique l'existence. L'amour implique l'existence de celui que j'aime. L'existence actuelle de celui que j'aime. L'amour ne porte jamais sur une réalité qui n'existe pas. Elle a existé. Et on a oublié de comprendre qu'elle n'existe pas actuellement. Et on attend qu'elle existe. Et on désire qu'elle existe.
Donc au fond, on ne peut jamais s'arrêter à la présence. En métaphysique, on passe de la présence à l'être.
Oui.
Qu'est-ce que c'est que la présence ?
On ne s'arrête jamais au passé, jamais au futur. On s'arrête au présent.
Et la présence, qu'est-ce que c'est en métaphysique ?
En métaphysique, la présence, c'est une relation. Je suis présent à quelqu'un. Et ce quelqu'un m'est présent. Il y a une présence intime quand on est tout proche. On se touche. Une présence lointaine quand il y a le bureau et ceux qui sont assis. Pour bien distinguer ceux qui sont assis sur le... Ils écoutent. Et puis celui qui voit pour saigner. Il y a une présence entre le professeur qui donne son cours et celui qui écoute. Et la présence est plus ou moins grande. Puisque quelquefois on s'endort. Et quand on s'endort, on arrête la présence. Il doit y avoir, chaque fois qu'on s'endort, une cloche qui réveille celui qui s'endort.
Mon père, après, il y a beaucoup de questions qui vous sont posées sur la place du « je suis » en philosophie, par exemple celle-ci. Vous avez souligné que la philosophie commençait par « ceci est » et « tu es mon ami ».
Tu es mon ami.
Pourquoi ce matin êtes-vous parti du « je suis » pour la recherche de ce qu'est l'homme et pour la recherche métaphysique ?
Parce que j'ai transformé le « ceci » en vous disant que l'expérience du « ceci » où est-elle la plus forte ? Est-ce que c'est lorsque vous dites « le crapaud existe » ? Il est. Ou lorsque vous dites « un homme est là ». La philosophie s'intéresse à l'être dans l'homme. À l'être dans l'homme. Du « ceci » dans l'homme. Elle ne s'intéresse pas tellement au crapaud. Je n'ai pas encore fait de cours de philosophie sur le crapaud. Parce que je pourrais le mettre dans un verre, tout le monde regarderait, et on verrait, c'est que le crapaud. C'est un être très particulier, le crapaud. Que Dieu, dans sa sagesse, ait inventé des crapauds, ça en dit long. Que Dieu, dans sa sagesse, ait inventé un moustique. Grandiant. Que Dieu, dans sa sagesse, ait inventé une fleur merveilleuse, une rose, un lys. Bien. Les ceux-ci sont multiples. Il y en a un qui m'intéresse particulièrement, c'est l'homme, la femme. Il est, je suis. Ah, c'est pour ça que je passe du ceci à l'être dans l'homme. Parce que le ceci, le plus intéressant pour le philosophe, c'est l'homme. Il n'y a que l'homme qui l'intéresse. Il peut s'intéresser au crapaud, mais ça ne va pas très loin. Je laisse ça aux sciences biologiques de s'intéresser au crapaud ou au petit cochon. Le philosophe, ça n'intéresse pas beaucoup. Vous voyez, il est plus digne que le démon. Satan s'intéresse au petit cochon. Vous savez bien. Quand les démons ont eu peur. Ils ont demandé que si Jésus les chassait des hommes, qu'au moins ils puissent aller habiter dans les petits cochons. C'est un passage de l'Écriture qui est extraordinaire. Hein, ça nous révèle l'âme du cochon. Et ça nous révèle l'âme du démon. S'il était dans l'homme, il va tout prix venir dans le cochon. Pourquoi ? Pourquoi le démon a-t-il demandé ça à Jésus ? Parce que s'il quitte l'homme, il n'a plus rien à faire. Le démon est anti-contemplatif. Il ne peut pas rester sur lui-même. Il s'ennuie sur lui. Tandis que dans le petit cochon, il s'amuse. Et il s'est amusé drôlement. Il les a fait courir à toute vitesse, se précipiter dans l'eau. Le démon, ça lui était égal. Que le cochon se précipite dans l'eau et soit naufragé, c'est un esprit. L'eau ne le touchait pas. Quand les petits cochons sont morts, je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a dû voyager sur l'eau pour rencontrer des gens avides de parler avec lui. Le démon, c'est un froussard, vous savez. Il fait peur en faisant beaucoup de bruit. C'est un froussard. Il n'a aucun courage, puisqu'il n'a aucune vertu. Fait du bruit pour nous épater, pour nous faire peur. Mais c'est lui le peureux. Il suffit de faire un signe de croix pour que déterpille. C'est parce que quand on a peur, alors il entretient notre peur. Il n'est pas bête. Hein. Il entretient notre peur sur notre imagination. Il nous fait peur par l'imagination.
Mon père, à propos de ces trois points de départ, il y a une question sur la recherche du premier. Nous nous sommes interrogés sur les différents points de départ. Ceci est, je suis et je t'aime. Le premier parmi les ceci, c'est le je suis. Le premier dans l'ordre du je suis, nous allons le voir. Allons-nous nous poser la question d'un premier dans le « je t'aime » ?
Au terme, on verra que l'homme ne peut pas être le premier, c'est Dieu. Et je découvrirai l'existence de Dieu en me posant justement, y a-t-il un premier dans je t'aime ? Et le premier, c'est l'ultime. C'est le plus parfait. Tous les hommes sont limités dans l'amour, dans leur bonté. Donc je ne peux pas les aimer infiniment. Et pourtant, l'amour que j'ai pour eux demande d'être infini. Et c'est pour ça qu'on est toujours déçu. Sauf quand cet amour est très lucide et que je sais que l'amour que j'ai pour un homme est nécessairement limité. Mais si, par l'imagination, je pense que cet amour est infini, je suis déçu.
Donc au fond, l'amitié dans son réalisme exige de nous conduire jusqu'à Dieu ?
Oui.
Est-ce que c'est comme ça qu'elle est vraie seulement ?
Et c'est comme ça que l'amitié est une voie d'accès vis-à-vis de Dieu. Comme l'être est une voie d'accès vis-à-vis de Dieu. Il y a deux voies d'accès qui s'unissent pour monter, jusque Dieu. Dieu est l'être premier et la bonté souveraine.
Et à propos du « je suis » et de l'amitié, quel est l'homme que je connais le mieux ? Est-ce que c'est moi-même ou est-ce que c'est l'ami ?
Quel est celui que je connais le premier ? Je me connais. Je m'aime. Si je ne m'aime pas, je ne peux pas aimer un autre. Vous voyez, ça arrive ça. Il y a des gens qui n'aiment pas leur corps. Et n'aimant pas leur corps, ils ne s'aiment pas. Ils n'arrivent pas à aimer un autre qui a un corps. Ils n'aimeraient que les anges. Et c'est en Dieu, ils ne les voient pas. Vous voyez, je passe du « ceci est » à « je suis » en philosophie, je parle, très rapidement. Vous voyez, le « je suis » a un avantage énorme sur « ceci est » parce qu'il est d'intérieur. Et c'est pour ça, si « ceci est » n'est pas présent dans le « je suis », je serai dans une subjectivité où l'imaginaire viendrait tout de suite. Tandis que si ceci est présent dans le « je suis », alors je découvre en moi la réalité que je connais le mieux et qui est toujours présente. Donc le « je suis » a une place extrêmement importante. Mais je ne peux pas m'arrêter à ça. Si je m'arrêtais à « je suis » sans dire « ceci est », il y aurait une subjectivité effrayante. Je verrais toute chose en fonction de « je suis ». Ce qu'on voit chez certaines personnes, c'est très curieux. Si on les interroge philosophiquement, elles parlent, et au bout de quelques minutes, si on n'a pas prononcé un mot vis-à-vis de leur personne, « Ah, je suis là !» Elles font ça avec beaucoup d'élégance, en prenant quelque chose de frappant par rapport à elle. Je suis, pour certaines personnes, ça se ramène à leurs cheveux, leur coiffure, leur robe. Je suis admirable dans ma robe. Et ma robe, c'est pas le « je suis », c'est de l'ordre de l'avoir. On n'a pas fait pour soi, on ne fait pas de différence. C'est très curieux, les personnes qui ne font qu'une différence entre ce qu'elles sont et ce qu'elles ont. Alors c'est très grave pour l'ami, ça. Quand vous confondez dans l'ami, mon ami et son être. À ce moment-là, il n'y a plus altérité. Mon ami, c'est moi. C'est très dangereux quand vous dites que mon ami, c'est moi. Parce qu'en réalité, vous ne regardez que vous. C'est moi. C'est un amour terriblement égoïste. C'est moi. L'ami est toujours l'autre. Est toujours distinct de moi. Et donc, je regarde en lui l'autre, ce qui est distinct de moi, et je respecte mon ami dans son altérité en l'aimant. Je le respecte. Je sais qu'il a une altérité autre. Il est autre que moi. Et je peux être très proche de lui, mais toujours en respectant son altérité. Si je ne respecte pas son altérité, je fais une confusion terrible. C'est moi. C'est moi qui me prolonge en lui. Oh, c'est grave, ça. Quand on dit que mon ami, c'est moi qui me prolonge en lui. Ça prouve que vous ne voyez votre ami qu'à travers votre moi. Et si vous ne voyez votre ami qu'à travers votre moi, vous ne respectez plus son altérité.
Mon père, après, on voudrait que vous précisiez un peu comment on peut, au point de vue philosophique, parler des rapports de l'âme et du corps. Vous avez dit que le corps est secondaire, que l'âme est la partie essentielle de l'homme, mais est-ce que je n'ai pas plus immédiatement l'expérience du corps que de l'âme ?
Oui, mais quand je dis secondaire, attention, c'est par rapport à l'âme, c'est un secondaire essentiel. Mon corps est essentiel à mon être. C'est pour ça que quand j'essaie de saisir la place du corps dans la personne humaine, je crois qu'il faut dire que le corps est une condition substantielle. Le corps me conditionne. Je suis conditionné par mon corps. Je suis conditionné par mon corps. Je ne suis pas déterminé par mon corps. Je suis conditionné par mon corps. Ce n'est pas mon corps qui me détermine. Ma finalité est autre que mon corps. Mais je suis conditionné dans le conditionnement aller vers ma fin. Donc, les rapports de l'âme et du corps, c'est quand même très important. C'est un sujet très important, ça. On pourrait faire toute une session sur les rapports de l'âme et du corps. Comment faire toute une session sur la mort ? C'est la place du corps. La mort, c'est la victoire du corps. Le corps est victorieux. Et dit à l'âme, attends, tu n'as que faire dans mon corps, laisse-moi tranquille. Je suis fatigué. Je parle là d'une mort humaine. A pris une importance énorme à cause de la maladie, souvent. La maladie donne au corps un intérêt très particulier. On s'occupe de son doigt de pied parce qu'il nous fait mal. Quand il nous fait pas mal, on lui dit « mon pauvre petit doigt de pied, tu es le petit dernier ». puis on s'en occupe pas beaucoup. Tandis que si vous faites mal, toute la journée, oh, ce qui est terrible, ce doigt de pied, il prend tout. Et le corps, par le mal, par la maladie, il crie, fais attention à moi, j'existe, je suis là, tu m'as oublié. Chaque fois que vous faites de la fièvre, c'est ça. Chaque fois que vous faites du palu, c'est ça. Une crise, c'est le corps qui réclame, parce qu'on n'a pas fait attention à lui suffisamment. L'âme et le corps sont relatifs l'un à l'autre, mais l'âme détermine le corps, et le corps accapare l'âme. La causalité matérielle du corps accapare. La causalité formelle de l'âme détermine. Mon âme détermine mon corps. Mon corps est déterminé par mon âme. Et mon âme n'est pas déterminée par mon corps. Mon âme est créée par Dieu. Et mon corps est un témoin de l'atavisme. Il est un témoin de ça. Et mon âme est créée directement par Dieu. Mon âme est première. C'est elle qui détermine mon corps. Tous les détails de mon corps sont déterminés par l'âme. Et en ce sens-là, ils sont respectables. Tout dans mon corps est respectable, puisque tout est déterminé par mon âme. Je n'ai pas le droit de considérer que mon corps, c'est pas moi. C'est moi, mon corps. Et en même temps, c'est mon avoir. Mais c'est moi. C'est mon avoir substantiel. Il m'est lié, mon corps. Il me détermine. Il me détermine, il me conditionne, il faut dire. Mon corps me conditionne, ne me détermine pas. Ma détermination dans toutes mes activités vient de ma finalité. Je cherche la vérité. C'est ça qui me détermine. C'est pas mon corps. Mon corps me conditionne. Dormez cette nuit sans trop faire de philosophie, sans trop penser votre âme. Vous dites à votre âme quand vous allez dormir. Je vais me reposer. Alors, ne m'agite pas. Et votre âme laisse au corps toutes ses possibilités de détente. Mon âme ne quitte pas mon corps. Elle ne veut pas se promener. Non. Tant qu'on est en vie, elle reste liée à mon corps. Mais elle peut s'évader. Je peux penser à quelqu'un qui est à 2000 km d'ici, l'aimer. Mon corps est limité, il est en prison. Il est ma prison. D'une certaine manière, c'est vrai. Parce que par mon corps, je suis forcément limité.